Ah, salut les amis. Vous allez bien? Pardon, hein, on est brut de décoffrage un peu à l'arrache. C'est la revue de presse depuis MVP, c'est deux fois par mois. Il n'y a pas de musique. Et encore, vous avez échappé au grattage de nez. Vous allez bien? Donc là, c'est vraiment les fidèles, hein, qui sont là. C'est-à-dire que vous êtes littéralement sur le stream au bout de quelques secondes. Un grand félicitations. Ça va? Ouais. On a 1h20, hein, pour la revue de presse. Donc ça va. Comment on dit déjà? Ça va. Speedrun l'actu, c'est un truc que j'ai appris avec le chat ça. Donc des bonjours personnalisés pour les premiers, les courageux, Sugar, MMG, Eudge, Blashmer, The Jox, Martin, voilà, Timelone, on en profite d'être en petit comité pour vous saluer un par un. Guibou Guibou, allons-y, Dakota, Mjalo, ah ça y est, ça va trop vite, ça va trop vite, ça y est, vous êtes trop nombreux déjà. Tu as vu pour Henri quoi? Attends, attends, Tom, Tom, ça, toi, t'es un troller, toi. Alors, parmi mes invités d'MVP ce matin, il y a Henri Tran. Il y a Tom Thompson qui t'a vu pour Henri. C'est du troll ou il lui est arrivé un truc? Salut, MMG. Comment ça, il a le grand bâton? Non, c'est du troll. Mais soyons sérieux un petit peu, les gars. On a 1h20 pour faire l'actu. On n'est pas là pour. Hein. C'est incroyable, ça. Il a fait des stories. Des stories de quoi? C'est encore du troll, oui. Attendez, j'ai 1h20 pour pouvoir compter 24 heures d'actu, les gars. Donc, on va aller straight to the point. Mais où trouves-tu toute cette énergie? J'ai pas du tout la ref. Je n'ai pas du tout la Va sur son compte Insta. Non, Tom Thompson. On a 1h20 pour faire 24 heures d'actu. Donc, on va arrêter les. Va sur le compte d'Insta d'Henri Tran. On va parler d'actualité. Ok, concentre-toi, focus, tu vas y arriver. Vous allez bien, vous? Il n'y aura pas de sommaire ce matin, ça marche pas. Sur le PC où je suis, je peux pas récupérer mes overlays. Hein, on va faire une revue de presse express. C'est vrai que c'est un peu les. C'est une période d'examen là. Il y a Timeline qui nous parle d'une grosse période de révision. Il y a plein d'étudiants qui sont en examen là, en ce moment là. Voilà, adieu Tom Thompson. Reviens demain quand on aura plus de temps. Salut Lupin. J'ai dormi 2 heures le gros Pablo. Et moi qui me plains parce que je suis en manque de sommeil. 2 heures? Mais c'est pas de TC, il n'y a pas de TC, pas de sommaire. On va. Ah quoi, 2 heures de sommeil, mais c'est pas bon ça. Hein. Oui, il n'y aura pas de TC, il n'y aura pas de sommaire. Mais par contre, il y a une actu. En vrai, il y a une actu. Il y a des actus intéressantes. Demain, oral de mémoire à mon entreprise, je panique. Oral de mémoire? Comment ça se fait que tu présentes un oral de mémoire à ton entreprise? Tes études sont liées à ton entreprise, c'est intéressant. Ok. Maël, grosse révision. C'est ça, hein? On est en pleine période d'examen, de partiel, de choses comme ça. Timelone, je me suis endormi sur mes courriers à 4h du matin. Mais vous êtes des tryharders? Mais c'est fou, ça. Ah, Sugar, tu penses que c'est une alternance? Toujours pas dormi, perso? Oh là là. Vous êtes courageux, hein? Vous êtes courageux. Vous êtes très courageux. Bon, en termes de son d'image, les amis, ça va pour vous? Oui? Parce que là, j'ai 1h15, j'ai envie d'en profiter. Hein. On va envoyer l'actu tout de suite. Et ton neveu, ça va, c'est une médecine. Merci, Soso, de demander. Oui, je crois que ça s'est bien passé, il est très content. Nickel? Ok? Oh, mais Bardella, on en a déjà parlé, Eudge. C'est déjà fait. On a parlé, on a rigolé un petit peu hier. Pas de choix, on paye les écoles, il faut faire en sorte de l'avoir. Ok. Yep, alternance. Un oral car il faut bien leur justifier mon apprentissage. Ok, Mimi, merci pour le soutien. Les amis, il est 8h44. Je vous fais un petit sommaire express et après on lit les journaux parce que contrairement à d'habitude, on va pas passer 3 heures ensemble. La revue de presse, elle va durer 1h15 et à 10h, on retrouve MVP avec ce matin, on a Tatiana, on a Henri Tran, on a Ludo, bien sûr, Ludovic B. Et on va passer en revue toute l'actualité autour du monde du travail, de l'entreprise, de l'insertion, de l'orientation. MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Ok, on a Moziman aussi en invité MVP, en invité spécial à partir de midi, le DJ. Je suis bien content de le recevoir parce que on a fait déjà des trucs ensemble, pas mal, mais on a jamais vraiment eu le temps de l'échanger. Donc on va un petit peu se pencher sur la carrière d'un DJ. Voilà. Oui, j'ai vu, oui, sur les stupéfiants, ouais. Jalo, je pense que j'en parlerai demain, ça, en vrai. Ouais, c'est intéressant. Le déplacement de Macron à Marseille. Allez, les amis, c'est parti. 8h45, bienvenue dans la matinée, Étienne. Tous les matins, on passe en revue l'actualité, on lit les journaux ensemble. En général, on passe 3 heures ensemble, mais le mercredi, 2 fois par mois, j'ai mon émission MVP à 10h, toujours sur Twitch. Et du coup, eh bien, la revue de presse, elle dure un peu moins longtemps. On a 1h15 ensemble pour tryharder l'actu. Bienvenue à ceux qui nous regardent sur Twitch, bienvenue à ceux qui nous écouteront en replay sur Twitch, sur YouTube et en podcast audio tous les jours à partir de 15-16h sur toutes les plateformes de podcast audio. Petit sommaire, vraiment quelques secondes pour vous dire de quoi on va parler. Ça, c'est la une du Figaro. Réseaux sociaux, le défi de l'interdiction aux adolescents. Emmanuel Macron, qui a fait un déplacement à Marseille. On aura l'occasion dans les prochains jours de revenir sur la lutte contre le narcotrafic et ces quelques annonces qui sont pas folichonnes en vrai depuis Marseille. Mais là, on parlera des réseaux sociaux. Le président souhaiterait en faire un marqueur fort de son second mandat, hein, de l'interdiction des réseaux sociaux aux ados et aux enfants, bien sûr, hein. Mais une telle mesure relève du casse-tête technique et le flou demeure sur son processus législatif, dossier dans Le Figaro ce matin. Deuxième sujet qu'on évoquera, alors ça c'est dans tous les journaux ce matin, c'est la reculade, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas le changement d'équation dans l'Union européenne, donc Bruxelles, à partir de 2035. Ce qui était prévu à la base, c'est l'interdiction totale à partir de 2035 de la vente de véhicules neufs thermiques. Ça devait être full électrique pour la vente de voitures neuves. Et ben ça a changé pour dire les choses suite à la pression du lobby automobile et notamment de certains constructeurs allemands pour pas les citer. Et bien Bruxelles revient sur cette interdiction totale. Et l'annule pas, mais l'assouplit. Voilà. Donc, on verra de quoi il retourne. Je vous ai choisi un dossier dans les échos là-dessus. Il n'y aura pas de sommaire écrit ce matin. L'overlay ne marche pas là où je suis. On commence déjà à parler du mondial de football 2026, donc, qui se déroule. Moi, je ne suis pas un grand passionné de foot, mais si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis. Mais pas seulement, hein. Non, mais pas, oui, mais je regarde pas seulement aux États-Unis. C'est pas dans plusieurs pays, il n'y a pas aussi un peu l'Amérique latine. Attendez, c'est ça, Canada, USA, Mexique. Voilà. Exactement, c'est pas que les États-Unis. Donc ça pose. Ouais, c'est ça. Ça pose des questions bon, bah d'éloignement des matchs, de déplacement, des équipes, des supporters. Donc il y aura un débat sur les émissions de CO2, de tout ça, bien sûr. Mais là, il y a un autre débat qui est dans l'humanité, c'est le prix des billets. Jamais des billets pour une Coupe du Monde de football n'auront été aussi élevés. Les prix sont totalement fous. L'humanité en parle ce matin, mais il n'y a pas que l'humain. Ces derniers jours, il y a eu pas mal d'articles là-dessus, quoi. Dans les échos, je vous mettrai deux articles là, sur cette même page. Il y a d'abord un truc plutôt sympa sur comment la jeunesse française serait la seule issue à la crise. À la crise économique, budgétaire, un truc un peu sympa de deux économistes sur arrêtons de privilégier, de choyer un petit peu les vieux et misons plutôt sur notre jeunesse et aidons-la à démarrer dans la vie. Un petit appel plutôt sympa, je trouve. Et juste en dessous, un article assez court, dommage, qui mériterait vraiment d'être développé, qui mériterait plusieurs, à mon avis, plusieurs pages là, vraiment un dossier, mais il a le mérite d'exister sur le phénomène e-sport, mais surtout. Un phénomène e-sport qui est en quête de rentabilité. La passion jeu vidéo, la passion gaming est là, la passion e-sport elle est là, les stades sont remplis, il y a les équipes, etc. Le problème c'est que le modèle est en quête de rentabilité, ça rapporte pas encore beaucoup de sous à ces acteurs pour des raisons structurelles. Et on n'ira pas au bout du sujet avec cet article, il est tout petit, hein, vous voyez, mais on évoquera quand même un petit peu cette thématique, ça nous mettra des billes dans la tête pour la prochaine fois. Et alors, il y a un autre truc qui est très présent ce matin, en ce jour de sortie ciné. C'est Avatar 3. Voilà. Il y a plein d'articles globalement positifs ce matin. Après, c'est subjectif, hein, une critique ciné. Hein. Si ça se trouve, Avatar ne vous intéresse pas, vous n'allez pas aimer le film. Mais globalement, les critiques sont positives. Et notamment, Libé, vrai coup de cœur pour le film. Carrément la une. Carrément la une. Voilà, avec un énorme dossier. Et Libé, clairement, qui a été séduit par cet Avatar 3 qui est un peu plus dark. Voilà. Donc les amis, on a tryhardé le sommaire, maintenant on va tryharder l'actu. Vous voyez, il n'y a pas l'overlay sommaire d'habitude avec les TC et tout. Là, On est en configuration un petit peu réduite parce que je suis dans mon studio de MVP, donc j'ai pas tout à fait le même setup. Donc pardon, vous n'aurez pas le sommaire, mais ce que je peux vous promettre, c'est que là on a 1h10 et en 1h10, non, on va même pas prendre les TC Sugar. Mathieu qui s'occupe en fait, pourquoi c'est intéressant d'avoir le sommaire notamment et les TC, c'est parce qu'après, pour les gens qui nous écoutent en podcast, ça permet de donner les time codes, les horaires auxquels les gens peuvent retrouver tel ou tel sujet. Mais là, 1h10, Vincent qui s'occupe de ça, que je salue d'ailleurs, va mettre un bloc d'1h10 de revue de presse directement en podcast audio. Ok? Voilà. Et puis demain, on retrouvera la revue de presse classique. D'accord? Donc, les amis, les gens qui vont nous rejoindre vont peut-être nous interroger dans le chat. Ah, mais pourquoi il n'y a pas de sommaire? Je vous laisse leur dire à chaque fois, bah, c'est normal, il n'y a pas de sommaire cette fois. Ok? Merci d'avance. On a tellement de pubs en boucle pour Avatar que ça donne pas envie de le voir. Il y a beaucoup de pubs en Bragon sur le film, c'est vrai? Ok? Allez, 1h10, c'est parti. Premier sujet. Donc, alors c'est un sujet dont on a déjà pas mal parlé ici. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux ados? En général, on dit au moins de 15 ans. Alors, on a parlé à plusieurs reprises parce que c'est un projet depuis longtemps, une réflexion depuis longtemps, notamment du président français, du président Macron. L'Australie vient de le faire. Hein? L'interdiction des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux au sens large, hein, ça, TikTok, Instagram, mais aussi YouTube, mais aussi Kick, mais aussi Twitch. Voilà. Alors se pose la question de l'applicabilité du non-contournement petit VPN qui va bien de cette mesure, mais c'est un débat intéressant. Donc c'est le premier pays au monde à l'avoir fait. Et bah, du coup, en France, le débat se poursuit. C'est la une du Figaro ce matin, réseaux sociaux, le défi de l'interdiction aux adolescents. Emmanuel Macron souhaiterait en faire un marqueur fort de son second mandat, mais une telle mesure relève du casse-tête technique et le flou demeure sur son processus législatif. Comment protéger les adolescents des réseaux sociaux et de leurs algorithmes prédateurs? Entre nous, protéger les plus jeunes, les enfants, les jeunes ados des excès des réseaux sociaux, des algorithmes parfois problématiques, ah, je pense qu'on va être d'accord en vrai. On va être d'accord, tu vois. La question c'est comment? Pour Emmanuel Macron, le seul moyen est l'interdiction pour les moins de 15 ou 16 ans, donc il y a débat sur l'âge. Deux textes de loi portés par des parlementaires sont déjà dans les tuyaux législatifs, mais le président qui souhaite en faire un marqueur de son second quinquennat privilégiera un projet de loi, donc proposition de loi c'est quand ça vient de l'Assemblée, ou du Sénat d'ailleurs, projet de loi c'est quand ça vient du gouvernement. Passer les querelles politiques, la faisabilité technique d'une telle mesure interroge comment tu empêches l'accès à Internet à des jeunes qui sont très, très au fait de ces outils. Hein. Certes, des solutions innovantes existent qui sont déjà utilisées pour contrôler l'accès aux sites pornographiques. Il y a quand même des pistes de réflexion. Voilà. Reste que les adolescents sont experts en contournement. Bah oui. Hein, et qu'une telle mesure ne fonctionnerait qu'en concertation avec les autres États européens. En attendant, les parents organisent la résistance avec un mouvement pour grandir mieux sans smartphone. À ce propos, je vais lire ton message Pop Smoking dans un instant. À ce propos, en Australie, il y a eu des sondages, vous savez, sur cette interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes, hein, qui vient d'être mise en place. Et on voit que les jeunes ne sont pas super pour. En revanche, dans les enquêtes d'opinion, les parents sont super pour. Les enseignants aussi. Pop Smoking écrit: oui, les réseaux sociaux constituent une véritable catastrophe pour le développement de nos jeunes. Je suis assez d'accord en vrai. Pas pour les plus jeunes, ouais. Quand je vois, quand je, pardon, je vais dire les termes, mais quand on voit la merde, vraiment le contenu catastrophique que nous proposent certains réseaux, sans qu'on leur demande rien, hein, quand on scrolle. Putain, mais moi j'ai des petits à la maison, franchement, mais qu'on les protège de ça, quoi. C'est un enfer. Il y a du bon, il y a des créateurs de contenu qui font des choses formidables. Mais pour aller voir ce contenu de qualité, faut aller le chercher. Tu vois, en gros, faut être abonné. Mais quand tu prends le tout venant, quand tu scrolles, c'est un enfer. Protégeons les plus jeunes de ça, quoi. Hein? Qu'est-ce que c'est l'édito? Est-ce qu'il est intéressant? Je l'ai vite fait. Oui, c'est sur les. Oui, bah c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même une forme d'urgence à protéger les jeunes cerveaux de ce contenu-là, quoi. Voilà, je vais à la fin de l'édito, il n'est pas intéressant. L'urgence est bien la sauvegarde des cerveaux, ceux des enfants et des adolescents encore en construction, c'est déjà pas terrible pour nous alors, hein. C'est des âges où on se construit hein, en termes de intellectuellement, en termes de culture, en termes de sensibilité, en termes de valeurs. Les ravages du rapt de l'attention, cette substance de la raison, de l'esprit, de l'âme, font aujourd'hui l'objet d'un consensus scientifique mondial. Il y a plein de scientifiques qui ont bossé là-dessus déjà. Hein. Hein. Nul n'ignore plus les dangers des écrans et de leur contenu sur une génération qui, sans doute, est déjà pour partie sacrifiée. Bon, c'est le Figaro, c'est un petit peu pessimiste de nature. De nombreux pays comme l'Australie avant nous commencent enfin à prendre l'affaire au sérieux. Couvre-feu numérique, interdiction aux plus jeunes. Les solutions sont certes imparfaites, mais ne rien faire n'est plus permis. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, c'est comment on fait? Enfin, je passe peut-être pour un vieux réac, mais je pense qu'il faut protéger les plus jeunes de ces contenus. Voilà. Que j'allais dire, elle est pas mal cette phrase qu'il a dit. Bon, c'est le président Macron, mais pour le coup, je suis d'accord. On ne peut pas déléguer la santé mentale et affective de nos enfants et ados à des gens qui ont simplement décidé d'en faire le moyen de faire des revenus. Hein? Merci Nani Zeno. Merci pour ton message. Pour moi, la réponse est que pour les moins de 15 ou 16 ans, il faut interdire les réseaux sociaux. C'est le seul moyen de les protéger. C'est pas l'interdiction des réseaux sociaux à tous les jeunes, hein. C'est vraiment aux plus jeunes. Donc il l'a dit en déplacement à Marseille. C'est devenu l'une de ses marottes, même dit le Figaro. Politiquement très affaibli depuis la dissolution de 2024, il voit dans l'interdiction des réseaux sociaux aux ados un sujet sur lequel imprimer sa marque. Chaque mois, près de 40% des enfants accèdent à des contenus inappropriés en ligne. 40%, tu mets minimum, hein. Ça me paraît pas beaucoup. Je lis un message d'Eudge, que je lis, salut Eudge. Parce qu'il est très représentatif de ce que beaucoup pensent aussi dans le chat, c'est ce que dit Dadou aussi. Pour moi, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement, mais des parents. C'est les parents qui devraient brider l'usage du téléphone et pas le gouvernement. C'est une responsabilité de la société. Sur un sujet aussi complexe, il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire que pour éloigner les plus jeunes de ces contenus problématiques, il faut qu'agissent les parents, bien sûr. Mais aussi l'école en sensibilisant les enfants et aussi la société aussi en édictant des règles. Des parents qui doivent expliquer à leurs enfants qu'ils ne peuvent pas accéder à ces contenus problématiques, qu'ils ne doivent pas le faire pour leur bien-être intellectuel, pour la qualité de ce qu'ils consomment. En fait, ils doivent être aidés par la société. Et un texte de loi à un moment qui, comme en Australie, dit, écoutez, la loi, c'est que les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, 15 ans, c'est caca, c'est pas bien. Eh bien, cette loi, elle aide les parents à porter ce message à la maison. Ouais. Même si les gamins vont contourner par ailleurs avec un petit VPN. Ouais. Donc, c'est ça l'idée en fait. C'est pas dire démission des parents. Les parents ne sont responsables en rien dans cette histoire. Les parents sont en première ligne. Mais les parents, à un moment, ils doivent être aidés par la société. La société qui dit, notamment par le vote d'une loi, écoutez, ceci n'est pas bon pour les enfants, eh bien, ça aide les parents dans cette mission. Ça aide les parents dans cette mission. Voilà. Alors chacun se renvoie la balle. Ah, mais c'est pas nous, nous on fait déjà le maximum. Je suis professeur Samuel, c'est dans les programmes, l'éducation aux médias, on ne peut pas tout. Plus à l'école, désolé. Chacun doit faire. Chacun doit faire. Chacun doit faire. Voilà. Moi, c'est mon avis sur ce petit sujet-là. Alors maintenant, comment on fait? Alors, il y aurait un texte de loi du gouvernement en début d'année prochaine. Bon. À voir, hein. Ça c'est des annonces. Hein. Ça c'est l'annonce du président. Je peux très facilement prendre l'engagement qu'il sera voté ce texte avant la fin de ce mandat. Bon, les promesses politiques, ok, on verra. On verra, hein. Alors, le flou demeure sur le processus législatif. Est-ce que ce sera une proposition de loi? Est-ce que ce sera un projet de loi? On verra. C'est pas l'essentiel, à mon avis. L'important, c'est que cette mesure passe, en fait. Voilà. Bon, le président, il partirait plutôt sur un projet de loi. C'est un texte qui vient du gouvernement. Après, on verra quels sont les réseaux sociaux qui sont concernés. Vous avez vu, par exemple, qu'en Australie, c'est très large. Hein, c'est TikTok, c'est Insta, c'est X, mais c'est aussi Kick, c'est aussi Twitch, c'est aussi YouTube, par exemple. Donc ça, en France, on verra. Et est-ce que le texte, il doit être au niveau de la France? Est-ce qu'il doit être au niveau européen? Bon, ça, le côté qui va faire, peu importe. Ça, c'est les débats politiques, ça ne m'intéresse pas. La question, c'est comment on va faire et quand est-ce que ce sera fait? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des précédents, par contre. L'Assemblée s'est déjà cassé les dents sur le sujet. Ne pensez pas que les politiques ne se sont pas déjà emparés de ce sujet. Hein. Ils découvrent pas le truc. Une loi introduisant une majorité numérique à 15 ans avait déjà été adoptée en 2023. Ah! Sous l'impulsion d'un député Horizon qui s'appelle Laurent Marcangeli. Mais elle avait été retoquée par Bruxelles. Oui, c'est pas si simple. Car jugée non conforme au droit européen. Ah! Depuis, la Commission européenne a fait évoluer sa doctrine. En juillet, l'adoption des lignes directrices sur la protection des mineurs a ouvert la voie à des législations nationales sur l'interdiction des réseaux sociaux. Voilà. Donc, a priori, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait faire passer cette loi sans être retoqué par le non-respect du droit européen. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Je lis l'article un petit peu vite, hein. C'est dans le Figaro pour ceux que ça intéresse ce matin. Je vois plein de messages intéressants, hein. Je vous lis pas tous, mais. Tu vois, il y a Polyps. J'aime bien ton message. Je remercie ma mère de m'avoir offert un téléphone assez tard et de me laisser très peu jusqu'à mes 17-18 ans. Je me sentais en décalage par rapport aux autres, mais j'avais ma meilleure amie qui n'en avait pas non plus. On profitait mieux de la vie. Vous verrez, un truc qui est en train de se développer là, dans tous les pays concernés, c'est des pactes de parents. C'est-à-dire que comment tu refuses à un enfant l'accès à un téléphone alors que tous les copains ont le téléphone? Comment tu refuses l'accès aux réseaux sociaux à un enfant, à un jeune ado, alors que tous ses copains y ont accès? Eh bien, ce qui est en train de se développer, c'est des pactes de parents. Alors, j'ai pas encore trop bossé là-dessus, mais j'ai vu quelques articles vite fait. C'est des parents dans un groupe donné, dans une école donnée, dans une classe donnée, qui se disent ensemble, allez, pour que nos enfants ne se sentent pas isolés en n'ayant pas de téléphone portable à partir d'un certain âge, enfin un smartphone en vrai, hein, ou accès aux réseaux sociaux, eh bien, on va se mettre d'accord, nous ensemble, pour que ben, on fait ça. Voilà. Voilà, donc voilà, on voit bah, les parents qui prennent leurs responsabilités. C'est pas facile à mettre en place, mais c'est une piste, c'est intéressant. Le Figaro en parle ce matin dans son dossier d'ailleurs. Alors, une fois le texte voté, s'il est voté, hein, moi je suis toujours prudent en matière politique, s'ouvrira alors un autre chapitre bien plus complexe encore, celui de sa mise en œuvre, avec au cœur l'enjeu de la vérification de l'âge des internautes. L'interdiction des sites pornographiques aux mineurs pourrait servir de référence. Vous savez qu'en France, certains sites sont interdits maintenant aux mineurs. Depuis juillet dernier, vous avez des sites qui sont contraints de vérifier l'âge de leurs visiteurs. Voilà. Alors évidemment, ça peut être contourné, mais je pense que c'est un vrai obstacle, un vrai frein à la consommation de ces contenus. Voilà. Ça a été long, mais c'est en place. Et donc du coup, à l'Élysée, on se dit, si on a réussi à le faire en partie pour l'accès à des sites pornographiques, on peut peut-être le faire aussi pour les réseaux sociaux. Voilà. À l'Élysée, on est convaincu que la question technique n'est pas un obstacle. L'expérience des sites pornographiques ou des sites de paris sportifs, nous quoi? Nous le montre. L'idée serait d'utiliser la même méthode que pour celle qui a été mise en place pour les sites pornographiques pour les plus jeunes. Voilà. Une chose est sûre, je vais directement à la fin de l'article, hein, je speedrun ce matin. Le cas australien, qui vient de le faire, interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes, le cas australien oblige la France et l'Europe à accélérer le rythme. Il va forcément changer la donne, estime Justine Atlan. Il devrait nous faire gagner du temps et en précision pour la régulation comme la vérification d'âge. On va peut-être pouvoir s'inspirer de ce qui se passe en Australie. Voilà. Et effectivement, il y a une piste intéressante, c'est que c'est les pactes de parents dont je vous parlais aussi. Voilà. Allez, il n'y a pas de sommaire ce matin, je suis pas chez moi. Oui, c'est des gens, c'est pas voté en Australie, c'est en application, Brain Juice, en Australie, depuis la semaine dernière. Hors taxe, j'ai répondu à ta question tout à l'heure, je pense que tu viens d'arriver. Je vous lis, je vous lis, je vous lis, je vous lis. Moi, je pense que le souci aujourd'hui, me dit Gota Kev, c'est que les parents disent simplement non et sans la moindre explication. Il ne faut pas leur dire oui, mais plutôt expliquer le plus tôt possible les points positifs et négatifs de ce qu'est réellement Internet afin de laisser les enfants dans un propre débat ouvert. Gota Kev, oui, c'est ce débat sur les réseaux sociaux à la maison, ça doit être l'occasion d'expliquer aux enfants et aux jeunes ados que sur que quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, bah, c'est simple, il suffit de couper le wifi à la maison, pas d'internet, pas de problème. Mais non, en fait, un enfant, c'est un jeune et c'est un adulte plus tard qui va devoir utiliser ses outils pour travailler, tu vois, pour dans sa vie pro. C'est pas forcément l'idée du siècle en vrai de lui interdire internet. Non, par contre, il faut s'adresser à son intelligence et lui expliquer sur internet, ben, il y a de bons contenus et des contenus plus problématiques. Et il faut lancer ce débat. Attends, je vais épingler sur le sommaire là parce que on va passer la revue de presse à expliquer qu'il n'y a pas de sommaire ce matin. Pas ce matin. Je ne suis pas dans mon studio. Avec mon setup habituel, voilà. Les modos, je vous l'épingle hein, parce que comme ça vous renverrez au message épinglé, ce qui vous donnera l'occasion de dire hey, tu sais pas lire! Voilà. Voilà, comme ça on est hop. Voilà. Je vous lis encore un petit peu et j'enchaîne. J'aime bien le message de Chaolytic, parce que j'aime bien le débat aussi. Chaolytic dit, Hello Samuel, c'est bien beau de vouloir interdire, mais est-ce la bonne solution? Interdire, c'est le meilleur moyen de leur donner envie d'y aller. Bien sûr que les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour les cerveaux, mais ce n'est pas plus malin de mettre des moyens sur. Est-ce que ce n'est pas plus malin de mettre des moyens sur d'autres pistes, proposer des alternatives, proposer des sorties, des pauses numériques, de la prévention auprès des parents et des jeunes, de l'éducation et de la prévention, c'est pas en leur interdisant qu'on fait grandir. Je comprends ton point de vue, en vrai c'est intéressant. Et d'aucuns se posent aussi la question de la récupération de données personnelles, hein, du risque de dérive. Hein. Qui me parlait de saucisse tout à l'heure, et tu avais raison, je comprends. Voilà, c'est bébé Ernaise. On est tous d'accord avec cette inquiétude. Je veux pas être complotiste, mais le fichage des populations, ça sent vachement la saucisse. Ouais, c'est hyper intéressant. Vous savez quoi? On va en reparler de ce sujet. Hein, parce que si effectivement, il y a un projet de loi qui arrive dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc d'initiative gouvernementale pour interdire les réseaux sociaux, lesquels déjà? Si on interdit Twitch, je prends cet exemple parce qu'en Australie, Twitch fait partie du package. Si on interdit Twitch aux plus jeunes, aux moins de 15 ans, bon, ici on n'a pas tellement un public de moins de 15 ans. Mais certains streamers, pour certains streamers, c'est le cas, ou certains créateurs de contenu. Donc, même dans le petit écosystème, il va y avoir débat. On suit le sujet, je vous en reparle dès que ça commence à pop, quoi. Go interdire la télé aussi. Liu, moi je scrolle beaucoup les réseaux sociaux, je suis désolé. Mais quand on scrolle, c'est-à-dire quand on ne cherche pas un truc précis de qualité, quand on scrolle aujourd'hui Insta, TikTok et surtout X, le contenu auquel on a accès en scrollant un peu par hasard, il est monstrueux. Voilà. il est problématique pour les enfants, même pour les adultes, quoi. Moi, je suis choqué de ce que je vois quand je scrolle. Quand je zappe à la télé, bon, je trouve pas forcément ça très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la violence des images qu'on m'impose, quoi. Ne comparons pas à ce qui n'est pas comparable. C'est une catastrophe. On en reparlera. Comment ça, pareil pour CNews? Arrêtez, vous allez me faire avoir des problèmes encore. Allez, ça c'est un sujet qui est dans tous les journaux ce matin, c'est la reculade de l'Union européenne de Bruxelles sur ce qui était prévu, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques, de voitures neuves à partir de 2035. Bim, c'est terminé. Reculade, assouplissement de Bruxelles sous la pression, pour dire les choses, du lobby automobile, notamment des Allemands. Alors là, j'ai mis un article dans les Échos. Bruxelles enterre l'interdiction totale des voitures thermiques neuves en 2035. Bon, voilà, c'est clair. Hein, la Commission européenne a assoupli mardi son objectif de décarbonation pour 2035, parce que c'est ça derrière. Hein. L'interdiction des moteurs thermiques pour les voitures neuves devient une réduction de 90% des émissions. En fait, on passe d'un projet de réduction de 100% des émissions à 90%. Quelques mois de lobbying intense, voilà, les mots sont dits dans les Échos, auront suffi pour fissurer l'un des piliers du pacte vert européen. Mardi, donc c'était hier, on est sur l'actu ici à fond, la Commission européenne a dévoilé à Strasbourg un paquet de mesures qui enterrent de fait l'interdiction de vente des voitures thermiques neuves en 2035. Okay? Exit l'objectif de 100% de décarbonation à cette date pour les constructeurs auto, hein, place à une cible de 90% de leurs émissions de CO2, ce qui ouvre la porte à quoi? Aux hybrides rechargeables, ce qui normalement devrait être interdit à partir de 2035, mais aussi aux voitures essence et diesel, merci mon gâtre, et aux véhicules électriques équipés de ce qu'on appelle des prolongateurs d'autonomie. Moi personnellement, à mon âge, j'en ai un moi-même, un prolongateur d'autonomie. Mais pour moi, pas pour ma voiture, ça commence à être dur, quoi. Les flexibilités que nous introduisons ne remettent pas en cause le cap de la décarbonation, blablabla, blablabla, a dit le vice-président de la Commission. Traduction, nous maintenons l'objectif, mais nous autorisons 10% d'émissions supplémentaires. C'est pas une totale reculade, c'est un assouplissement. Voilà. Alors il y a un Allemand, Manfred Weber, président du Parti populaire européen, farouche opposant à la loi, qui se félicite. Stellantis, Mercedes, Volkswagen, BMW, tous ont martelé que l'objectif était inatteignable. L'Allemagne, patrie du moteur thermique, a poussé de toutes ses forces pour protéger ses constructeurs déjà fragilisés par les tarifs américains et la concurrence chinoise. Concrètement, les constructeurs, notamment allemands, hein, pourront vendre du non électrique après 2035 en compensant via des crédits carbone. Ah, utilisation de carburant durable, notamment. Est-ce que la France pourra satisfaire de ce compromis? Parce que la France, comme l'Espagne, plaidait, qu'est-ce qu'on voulait, nous, enfin, au niveau politique, la France? Bah, maintenir le cap. Ça allait bien à Paris, cet objectif de 2035, on ne vend plus de véhicules thermiques neufs sur le marché européen. La France regrette cette flexibilité ouverte. Au véhicule thermique fera tout pour la faire tomber, prévient-on côté français. Alors, bonne nouvelle ou pas pour les constructeurs automobiles et notamment allemands. Cet assouplissement ne résoudra pas toute l'équation des constructeurs auto. Ceux qui prétendent que la législation climatique serait la seule ou même la principale cause des difficultés actuelles ignorent la réalité industrielle. Il y a une crise de la demande, il y a un retard technologique, une concurrence internationale parfois déloyale, suivez mon regard. Hein? La bataille est loin d'être finie, le texte doit encore être validé par les États membres et le Parlement européen, donc ça n'est pas encore validé, hein, cet assouplissement. Pendant ce temps, les ventes de voitures électriques dans l'Union européenne ont bondi de 26%. Entre janvier et octobre 2025, parfois le marché avance plus vite que les politiques qui croient le guider. Voilà. Ce qu'on lisait hier dans les articles sur le sujet, parce que ça fait plusieurs jours que les journaux en parlent, c'est que à court. Tiens, bah, c'est ce que dit MMG. C'est ce que dit MMG. MMG, GG. Pour le court terme, ça sauve probablement la vie de plusieurs marques automobiles européennes. Sur le long terme, ça va plutôt les sacrifier. C'était l'analyse de plusieurs journaux hier, à savoir que à court terme, ça va protéger les constructeurs européens qui sont concurrencés très fort par les constructeurs automobiles chinois qui sont devenus vraiment très puissants sur les véhicules électriques, ok? Alors que nous, on a plutôt une expertise sur le moteur thermique, nous comprenons surtout les Allemands, voilà. Donc à court terme, petite protection, mais à long terme, sur un marché demain qui va être dominé par le véhicule électrique, eh ben en fait, à long terme, en ne s'imposant pas de devenir hyper compétitif sur ce marché du véhicule électrique, eh ben, on risque de prendre cher face aux Chinois, quoi. Voilà. Après, il y avait peut-être un problème d'objectif. 2035, c'est quand même dans pas longtemps. 100% de véhicules électriques 2035 pour les constructeurs européens en termes de calendrier, c'était peut-être compliqué. C'était peut-être compliqué. Sugar est un peu pessimiste, il dit c'est déjà trop tard, on a déjà perdu cette bataille de la voiture électrique. On verra ce que ça donne. Après, c'est un assouplissement, vous avez c'est à la marge, hein, 10%. Salut Alexandra, ouais, c'était bien Ranir, merci. Moi, il faudrait que je vous en parle plus. Il y a quand même, de temps en temps, je trouve des articles sur vraiment sur le danger que fait peser sur nos économies occidentales, l'économie chinoise aujourd'hui, sur bien des sujets. Je pense que je devrais vous en parler plus, quoi. Y a Effusion qui dit ils ont fait l'autruche plutôt que faire de la recherche, ils ont fait du lobbying. Ok, de toute façon c'est un dossier dont on parle régulièrement ici. On parle de football, hein, ça speedrun ce matin, hein, parce que c'est une revue de presse d'une heure et quart seulement. Alors, le mondial 2026, aux États-Unis, puis vous m'avez rappelé hier aussi, au Canada et au Mexique. Alors c'est une Coupe du Monde, je préchote, qui va créer des débats, qui va créer des polémiques, déjà parce que les stades sont hyper éloignés, donc... Il va y avoir du déplacement, sans doute du déplacement en avion, vas-y les émissions de CO2, etc. On est dans un pays aussi qui est dirigé par un président un peu particulier, qui est en train de mettre en place des contrôles aux frontières, y compris pour les touristes surréalistes. On s'est penché dessus récemment, y compris pour les pays exemptés de visa comme la France. Il va être sans doute plus compliqué d'aller en vacances aux États-Unis dans les prochains mois ou les prochaines années que ça ne l'était avant. C'est un souhait de l'administration Trump. Ok, il y a tout ça. Mais il y a aussi y a le prix des places. Voilà. Là, c'est l'Humanité qui vous en parle ce matin, mais il y a plusieurs autres journaux qui en ont parlé ces derniers jours. Le prix des places pour aller à des compétitions du Mondial 2026, c'est une dinguerie. Pour les supporters en partance pour les Amériques, écrit Luma, l'addition financière promet d'être salée face aux prix exorbitants des billets annoncés par la FIFA. Certains montent au créneau et pourraient boycotter l'événement le plus suivi au monde. C'est vraiment très cher. Les prix sont fous. Voilà. L'annonce de la tarification afin d'assister aux rencontres fait hurler dans les tribunes. Je crois qu'elle vient d'être faite. Voilà. Il y a un groupe de supporters français qui s'appelle les Irrésistibles qui vient de déclarer entre prix des billets scandaleux, déplacement XXL, hébergement hors de prix, l'addition est plus salée que jamais pour suivre les Bleus. Il en coûtera pour le premier match de poule des Bleus face au Sénégal, le 16 juin, 200 euros pour les billets les moins chers. Voilà. Cette Coupe du Monde aux Amériques, États-Unis, Canada, Mexique. Sera-t-elle seulement réservée aux riches États-Uniens, américains? C'est la question. Voilà. Les associations de supporters, pas seulement françaises, s'insurgent. Hein, la Fédération des supporters européens a été la première à réagir, rappelant que la candidature, soit les promesses, la candidature nord-américaine de 2018 pour accueillir cette Coupe du Monde promettait des billets à partir de 18 euros. Hein? Dans les premiers tours et qu'un parcours complet jusqu'à la finale en coûterait dans les 1900 euros. On en est très 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 loin de ces promesses. Si vous êtes fan des Bleus, que ceux-ci vont en finale, on le souhaite, vous devez sortir la coquette totale de 1500 euros minimum. Voilà. Rien que pour les places. Sans le voyage, sans le logement, etc. On a triplé par rapport aux engagements d'origine. Bon, c'est pas très fair, ça, en fait, de promettre des trucs et de faire x3 après. Voilà. C'est une augmentation jamais vue dans l'histoire de la compétition. Voilà. À titre d'exemple, par exemple, il fallait sortir 90 euros pour un match de groupe en Russie en 2018. Voilà. Un peu plus de 60 euros au Qatar en 2022 et minimum 609 euros pour la finale. C'est pitoyable. Depuis des années en France comme à l'étranger, on se bat pour un tarif populaire. Voilà. Et là, le rêve américain s'éloigne. On est abasourdi. C'est la honte du football, dit-on, côté supporters français. Car outre le fait d'avoir le ou les billets en main, reste le prix des déplacements ou du logement. On ne parle même pas des difficultés administratives pour obtenir un visa. Très compliqué. Ça va devenir très compliqué. En France, mais aussi en Grande-Bretagne, les fédérations ont promis de porter la voix des supporters jusqu'à la tête de la FIFA. Mais pour quel résultat? D'autres ont déjà pris les devants et décident de boycotter. Aujourd'hui, la demande dans les pays européens est faible, constate Renan Evin. Même cause, même effet pour les irrésistibles français. On avait réalisé un sondage avant pour savoir combien de nos supporters comptaient prendre des billets. Il y en avait environ 200. On l'a refait après l'application des prix. On en perd la moitié. On est à une centaine de personnes sur les trois premiers matchs, 33 pour la finale. Voilà. Bon. Est-ce que le prix des places, est-ce que les difficultés de choper un visa de touriste pour les États-Unis, est-ce que le coût global pour un supporter de quelque équipe ce soit pour ce mondial va dissuader certains supporters de venir? On verra. Je vous lis. Ça, on en a déjà parlé, Simpson, en début de semaine, mais tu as raison. La toute nouvelle idée de Trump pour toute demande de visa de tourisme, les adresses IP et réseaux fréquentés depuis 5 ans, ça, effectivement, c'est un sujet. Ouais. On en a parlé en début de semaine. Le truc, c'est que les États-Unis n'ont pas la culture du football européen. Me dit Jouet, pour eux c'est normal, tout ça comme par rapport à un match de NBA par exemple. Mais ça, on y reviendra, hein, parce que récemment, là, en matière de, alors d'immigration, 1, 2, même simplement de gestion du flux touristique, l'administration Trump a lancé un projet là, qui devrait être validé dans les prochains jours, on va le suivre, qui va durcir les conditions d'obtention d'un visa touristique pour les États-Unis, y compris pour les pays dispensés de visa comme la France. Les Français n'ont pas besoin de visa. Il y a des mesures de contrôle, possiblement, qui peuvent entrer en vigueur sur ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, sur votre historique de mail, des dingueries. Je vous en ai déjà parlé, on aura l'occasion d'en reparler. Entre le prix des billets, le décalage horaire, le peu d'appétence qu'ont les États-Unis pour le soccer, ça sent le flop cette histoire. On verra ça en Bragonne. Hein. On verra si c'est un flop, mais. Trump va lancer un embargo contre le pays qui va éliminer les USA. Après, si Trump met un embargo contre toutes les équipes plus fortes que les États-Unis en soccer, ça va faire beaucoup d'embargo. Pour voir le parcours complet de l'équipe de France au Qatar, c'était aussi plus ou moins 1500 euros, rien de nouveau. Alors, t'as pas dû entendre le chiffre, hein. Là, on est à 7500 euros minimum aux places les moins chères. Rien de nouveau, c'est littéralement, si je prends ton chiffre, 5 x 5, 5 fois plus pour les billets les moins chers. 1500, 7500. Pourtant, au Qatar, ça va, en termes de finances, ils savent gérer, quoi. Non, c'est cher, c'est cher. Bon, de toute façon, moi je suis pas très fou, donc même 1500, je les mets pas, mais Je pense à ceux. C'est pas parce que j'aime pas le foot, moi. Enfin, j'aime pas le foot, c'est pas. Ça m'a jamais intéressé particulièrement. C'est pas parce que c'est pas une passion de Samuel Etienne que je respecte pas la passion des autres pour le foot, quoi. Non, vous avez entendu 1500 parce que j'ai dit 7500. Et vous avez entendu parce que vous êtes des grigous, c'est 1500. Et c'est bien 7500. Et vie. Et vie. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre surtout, hein. Alors, un article positif. Bon, pas de sommaire ce matin. Allez, comme il est beau celui-là. La jeunesse, les gars. La jeunesse française, la belle jeunesse française, la jeunesse Kenané, une solution. Fox Fox, Fort Fox là, je te vois. La jeunesse française qui est une solution à la crise, c'est beau ça. C'est un article dans les Échos. Voilà, c'est des économistes, qui s'appellent Jean-Hervé Laurenzi et Hélène Vériser qui écrivent La jeunesse, la seule issue à la crise française. Salut Samuel, tu te souviens de moi, c'est ta prof de français, Madame Moreau. Je n'ai jamais eu de prof de français qui s'appelle Madame Moreau. C'était ma matière préférée au collège et au lycée. Et je me rappelle de chacun de mes profs de français et je n'ai jamais eu de prof de français s'appelant Madame Moreau. Tonton H 1914, c'est ton premier message sur cette chaîne et ton message, il est bizarre. Avec un compte créé hier, me disent les modos. Mettez-moi ça sous surveillance, les gars. Eh ouais! Ah non, là-dessus, tu pourras pas me voir. Donc, l'article est génial. L'article dit, hé hey, les gars, arrêtez d'emmerder les jeunes. Arrêtez de protéger les vieux, là. De nous. Les gars, c'est les jeunes qu'il faut aider à rentrer dans la vie active. Ça tombe bien, on va beaucoup parler dans MVP ce matin sur l'inéquation entre les diplômes, l'accès au marché de l'emploi, les jeunes diplômés, mais avec des diplômes top qui ont de plus en plus de mal à trouver un emploi, c'est compliqué. On va en parler dans MVP à partir de 10h. Voilà. Ah, bah, j'avais pas la ref du pseudo. Il était problématique le pseudo? Il a pas eu. Vous m'expliquez là, Sugar, tu m'expliques pourquoi le pseudo était problématique? Tonton. Je l'avais pas. Et alors, je l'ai pas. Oui, je l'ai, mais je vois pas le problème. H. Oh mais tonton, la lettre en tant que... Mais c'est tonton. Mais 1914, ça n'a rien à voir, 1914, les gars. Alors, on n'essaie pas la Seconde Guerre mondiale. Vous tirez pas un peu à la ligne, là? Tonton. Ah, c'est fait exprès, c'est un contournement. Ah, c'est comme ça que les... C'est vrai? Waouh! Bon, ok, c'est mercredi, il y a des enfants. Les esprits pas très éclairés parfois. Oui, voilà ce que c'est quand on expose les plus jeunes aux réseaux sociaux, les gars. Voilà, ça donne ça. Ça donne la personne qui vient de pop, là. Eh oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut protéger les jeunes cerveaux. Regardez, là, on est forcément avec un mineur. Là, c'est mercredi, les enfants sont pas à l'école. Hein? Et puis, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, la jeunesse française, la solution à la crise. J'adore cet article. Il est court, mais il est sympa. C'est parti. Vous m'écoutez? La France traverse une période de tension inconnue depuis des décennies. Bien avisé celui qui saura prédire l'état de notre paysage politique à l'issue des élections municipales, bien malin qui pourra prédire l'état de notre économie alors que les signaux alarmants se multiplient. Ok, d'accord, ça en connaît. Gifenou, j'adore ton message et on t'envoie plein de force. Mais dans ce contexte particulièrement instable et brumeux, les arbitrages budgétaires montrent une constante. Alors qu'on sanctuarise le système des retraites, qu'on réduit dans le même temps les moyens consacrés à l'apprentissage et à l'insertion des jeunes, ce choix revient à protéger le passé en sacrifiant l'avenir dans une simple vision électorale. Parce que non seulement les jeunes se mobilisent traditionnellement peu aux élections, bah ouais, bah, c'est malin aussi. En France, c'est les vieux qui votent. Alors comment voulez-vous? Comment à un moment, les gars, comment voulez-vous à un moment que les politiques protègent pas les électeurs les plus âgés? Proportionnellement, c'est eux qui votent le plus. Un moment. Comment tu veux te mettre tous les retraités à dos alors que c'est... Ado, jeu de mots sympa. Alors que c'est eux qui votent et que les jeunes, ils sont moins enclins à se déplacer aux urnes. Bah oui, un moment. Ah bah oui. Ce choix revient à protéger le passé en sacrifiant l'avenir dans une simple vision électorale, car non seulement les jeunes se mobilisent traditionnellement peu, mais leur poids démographique ne cesse de reculer, et ce, à une vitesse affolante. Allez. La baisse des moyens consacrés à l'apprentissage est un signal d'alarme, estiment ces deux économistes. Quand préparer toute une génération à l'entrée sur le marché du travail devient moins important que préserver, pendant un an, le pouvoir d'achat d'une génération qui, pour la première fois de l'histoire, épargne plus que celles qui la suivent. On peut légitimement s'interroger sur la direction que souhaite prendre notre société. Que dire de ce 1,5 million de jeunes NEETs, Not in Education, Employment or Training, donc ceux qui sont sans études ni emploi, on aurait pu le dire en français, on aurait gagné du temps, laissés sans perspective d'avenir et dont l'inclusion représenterait non seulement un levier de croissance, mais surtout un formidable outil de cohésion sociale dans une république qui se disloque. Que dit cet article? Qu'on ne choie pas assez les jeunes. Ils ne sont pas assez choyés. On peut également s'interroger sur le gel des aides au logement, les APL, alors même qu'il devient presque impossible pour les étudiants ou des jeunes actifs de trouver un logement décent dans de nombreuses villes. Plutôt que de porter un regard misérabilisme ou condescendant sur ces générations, oh les pauvres jeunes, il est temps de prendre conscience de l'ampleur des difficultés auxquelles elles sont confrontées, car ces difficultés, et c'est un vieux qui vous le dit, elles sont réelles. La France a besoin d'innover et de prendre des risques pour s'imaginer un futur qui ne soit pas celui d'une spectatrice dans un monde en plein bouleversement. Nous sommes dans une impasse avec d'une part... Ça va? T'as pas fait mal? Nous sommes dans une impasse avec une part les jeunes qui sont les plus concernés par ce futur avec de vraies alertes sur les priorités à conduire, mais sans avoir le réel pouvoir de les mener, et de l'autre, les plus âgés, qui occupent l'espace de décision avec beaucoup, pour beaucoup, une non-prise en compte de ces priorités. Ainsi, tout l'enjeu pour qui s'intéresse à la vie politique française n'est pas tant de savoir ce que veulent les jeunes, mais plutôt de comprendre comment les mobiliser pour bâtir un projet novateur qui permette à la société française de rebondir. C'est beau, ça. C'est beau. Salut le Kitrez. C'est en se saisissant réellement de leurs sujets concernant l'emploi, l'éducation, la transition écologique, l'égalité des chances, la formation et l'émancipation, et de les travailler avec eux. C'est en les mobilisant, ces jeunes, les intégrant à la réflexion et au débat avec les acteurs de la société civile, avec les gouvernements et collectivités publiques, mais aussi avec les décideurs économiques et du monde de l'entreprise, que nous pourrons relever ensemble ces formidables défis. Voilà. La France, regardez comme c'est beau. La France ne sortira de la crise que nous vivons qu'en donnant à la jeunesse un rôle d'impulsion et d'innovation se fondant sur son intelligence. Voilà. Ces deux économistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas assez considérés. L'intégration des jeunes dans la société, dans le monde du travail, les créateurs d'énergie et de richesse de demain ne sont pas assez considérés parce qu'en gros, le logiciel de pilotage du pays, il est aux mains des plus âgés. Je vous lis un petit peu. C'est un peu le sujet d'MVP d'ailleurs. MVP, on en parle toujours un peu de ces sujets-là. On va en parler ce matin d'ailleurs. Avec un marché de l'emploi qui n'est pas très très sympathique, notamment pour les jeunes diplômés. C'est un des sujets qu'on va aborder ce matin. Ça va être la big press qu'on va évoquer avec l'équipe. Il y a Gold qui m'inquiète. Quand tu dis qu'il faudrait créer une symbiose entre jeunes et vieux, c'est-à-dire symbiose, qu'est-ce que tu... Symbiose entre jeunes et vieux, c'est-à-dire tu vois ça comment en vrai? Rassure-moi. Je suis un peu inquiet d'un coup là. Ce n'est pas forcément une question d'âge, tous les vieux n'ignorent pas les jeunes. Mais il ne s'agit pas d'individus, là, mon nawak. Il s'agit de la société, il s'agit du politique. Il s'agit des lois, il s'agit des mesures qui sont faites pour accompagner ou protéger tel ou tel. On ne parle pas de ton voisin Michel qui aime bien les jeunes. D'ailleurs, bon, parlons-en de Michel. Ce n'est pas une question individuelle, c'est une question sociétale. Tu l'avais compris, bien sûr. C'est un peu ce qu'on fait ici, une symbiose entre les jeunes et un vieux. Ok, merci Yélès. Ben ça tombe bien parce que c'est un des sujets d'MVP ce matin. C'est-à-dire aujourd'hui, comment expliquer plusieurs choses? Que le marché de l'emploi est pas très chaleureux en ce moment pour les jeunes diplômés. Comment expliquer que un nombre croissant de jeunes estiment qu'ils ne sont pas employés à un niveau correspondant à leur niveau d'études et de diplôme? Comment expliquer que de plus en plus de jeunes s'estiment déclassés dans leur emploi et de plus en plus envie de changer de secteur? Voilà. Ben, c'est des questions qu'on va. J'ai pas forcément les réponses d'ailleurs, mais c'est des questions qu'on va évoquer à partir de 10 h dans MVP ce matin. Et j'espère que vous serez avec nous pour en parler. Il y a une rediff? Il y a une rediff, Hanok. Sur ma chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube de MVP? On est trop diplômé, dit syndrome par exemple. C'est une des pistes de réflexion. C'est un sujet qu'on évoquera ce matin. J'ai pas la réponse, moi. On demandera à nos chroniqueurs, à nos invités, puis vous me direz votre avis aussi. Je suis en alternance dans le milieu de la supply chain en Master 2. Rien que pour trouver une alternance, c'était le véritable parcours du combattant. Même les entreprises veulent de moins en moins de jeunes, me dit Soclem. Unpopular opinion, mais elle m'intéresse, Nuno. On surdiplôme les jeunes en faisant rêver d'une quantité folle de jobs nécessitant ces qualifications, alors qu'en fait, non. Y a trop de diplômés des mêmes secteurs, me dit Framboise. Fabricadon, c'est pour ça, me dit en rigolant, c'est pour ça que dans le doute, j'ai pas fait d'études. Alors, il y a un bémol qu'il faudra mettre tout à l'heure. Le marché de l'emploi est plus compliqué à accéder pour les jeunes diplômés là qu'il y a quelque temps. Voilà. Vous avez des jeunes diplômés avec des diplômes de fou parfois, mais vraiment impressionnants et qui ont du mal à accéder à un premier emploi. C'est encore plus dur pour les non diplômés. C'est-à-dire que le taux d'emploi des diplômés reste très au-dessus du taux d'emploi des non diplômés. Donc attention, hein, à pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le diplôme reste un outil protecteur, quoi. Jeune diplômé, deux points, refus des critiques, volonté de tout révolutionner sans comprendre ce qui est en place, etc. Handball. Tu me donnerais ton âge? Allez, on parle d'e-sport. Alors, tout petit article, hein. Tout petit article en vrai qui mériterait beaucoup plus, mais qui met le doigt sur un truc que vous connaissez déjà. Bon, c'est un petit article dans Les Échos qui dit que l'e-sport c'est formidable, que le jeu vidéo c'est formidable, que la compétition gaming c'est formidable, mais que on a un problème quand même de rentabilité pour des raisons structurelles dans ce secteur de l'e-sport. Voilà, c'est une chronique signée Pierre-Jean Bengosi, qui est chercheur au CNRS, à Polytechnique, s'il vous plaît. À Polytechnique, ça s'intéresse à l'e-sport. Ça a changé, hein. Et Jean-Paul Simon, directeur et fondateur de JPS Policy Consulting. C'est deux intervenants à Polytechnique. Ok. Qui est pas ça? En deux décennies, l'e-sport, bon, ici on aime, on valide, s'est imposé comme un segment autonome de l'économie numérique avec 2,4 milliards de dollars de revenus en 2024, une audience mondiale estimée à 640 millions de spectateurs d'ici 2025. Cette industrie hybride, l'e-sport, à la croisée du jeu vidéo, du sport traditionnel et du streaming, redessine les contours du divertissement récréatif. Hein, c'est très joliment dit. Il y a The Ram qui dit la bulle de l'e-sport. Tu penses que c'est une bulle? Son expansion fulgurante repose sur trois piliers. 1. L'interconnectivité mondiale permise par le très haut débit. Ouais. Oui, bah oui, faut, oui. C'est mieux d'avoir une bonne co, quoi. Okay. La diversification des supports, PC, console, mobile. L'émergence enfin d'infrastructures de compétition professionnelle. La géographie de ce marché révèle une domination asiatique manifeste. Hein. La région Asie-Pacifique concentre 57% des audiences mondiales. Donc c'est quand même un fait encore très asiatique. Contre seulement 16% pour l'Europe et 12% pour l'Amérique du Nord. La Corée du Nord. Merde! Oh la fatigue du joueur français. Je dis la Corée du Nord et je me dis, mais. Et au moment où je le dis, mais qu'est-ce que vient foutre la Corée du Nord dans l'e-sport? Ça m'étonnerait que ça joue beaucoup là-bas. Et non, 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 j'ai inventé, c'est la Corée du Sud, bien sûr. La Corée du Sud, non mais au moment où je le dis, je me dis, qu'est-ce que je raconte encore? La Corée du Sud, pionnière en la matière, a reconnu le statut de joueur professionnel d'e-sport en 2000, hein, établissant un modèle qui inspire désormais le monde entier. Cette avance historique se traduit aujourd'hui par une industrie mature, ok, c'est cool, structurée autour de ligues permanentes et d'équipes prestigieuses. Les acteurs clés de cet écosystème se distinguent par leur intégration verticale. Les éditeurs comme Activision, Blizzard, Riot Games ou Tencent ne se contentent plus de développer des jeux, détenteurs de la propriété intellectuelle. Ils financent équipes, tournois, s'arrogeant un pouvoir comparable aux grandes ligues sportives traditionnelles. Parallèlement, les plateformes de diffusion, Twitch, YouTube, Trovo. C'est quoi Trovo? C'est quoi Trovo? Trovo. C'est un truc à l'étranger, ça? Connais pas? MMG, tu connais pas? Jamais entendu parler, me dit 7-7. Aucune idée, Monsieur Sugar? Alors ça, c'est pas souvent, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Trovo. Google est mon ami. Il y a un clavier ici? Ah, il est là. Il est sous mes yeux. Oh, la vieillesse. Je cherche le clavier, il est là. Trovo, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que l'application Trovo? Anciennement Matcat, service de diffusion en direct de jeux vidéo appartenant à Tencent. Ça vous parle? Donc c'est chinois, Tencent, non? Franck Trovo, joli. On félicite le jeu de mots. Franck Trovo, l'ami de vos cheveux. Ok. Pire que Kick. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, les plateformes de diffusion ont bouleversé le modèle économique du spectacle sportif en contournant les chaînes télévisées au profit de flux en ligne gratuits, financés par abonnement, publicité et sponsoring. Toutefois, malgré les audiences colossales, leur rentabilité demeure fragile. Ah, parce qu'en fait, l'article, il est sur le problème de rentabilité de l'e-sport. Salut, Dame Simad. Je rezoome. La trajectoire des joueurs illustre la mutation rapide du secteur d'amateurs passionnés. Ils sont devenus des professionnels sous contrat, équipés, entourés d'équipes pluridisciplinaires, incluant coach, analyste, kiné. Le salaire moyen oscille entre 50 000 et 60 000 dollars annuels, mais les disparités restent considérables selon la notoriété et la discipline pratiquée. Voilà. Moi, par exemple, je suis joueur e-sport, moi. Tatiana, il y a Tatiana, mesdames et messieurs, qui vient de rentrer dans le studio d'MVP. Incroyable! Parce que là, dans un instant, à 10 heures, on a MVP avec Tatiana, avec Henri Tran, avec Ludo, bien sûr. Voilà, nos trois chroniqueurs avec qui on va rigoler. Ça va, Tatiana? Et plein d'invités aussi. Sur plein de secteurs, ce matin, on aura un jeune pâtissier incroyable qui fait des trucs de fou. On aura un métier mystère, du coup, je ne vais pas vous dire qui c'est. On a plein de sujets. Plein de sujets. Et puis, on a Moziman, notre invité MVP, à 12h, le célèbre DJ, avec ses Dream Track, vous savez, avec qui on va revenir sur son parcours aussi. Donc, je reviens à l'économie de l'e-sport. Les disparités restent considérables selon la notoriété, la discipline pratiquées. Les structures d'e-sport, quant à elles, dépendent essentiellement du sponsoring et du merchandising. Alors, cette phrase est très importante. Les structures d'e-sport dépendent essentiellement du sponsoring et du merchandising. Contrairement aux clubs sportifs traditionnels, qui s'appuient sur la billetterie et les droits de diffusion. Les droits de diffusion, eh bien, les structures d'e-sport ne les touchent pas, quoi. Contrairement à un club de foot, par exemple. Cette professionnalisation ne masque pas la précarité donc de ce modèle économique. Porté par l'interconnectivité croissante, la démocratisation des équipements, l'innovation constante des développeurs, l'e-sport reste une industrie en quête de rentabilité. Voilà. La plupart des acteurs accusent encore des pertes, révélant la difficulté à monétiser durablement une audience jeune habituée à la gratuité des contenus en ligne. Voilà. Sugar me dit ce qui mène parfois des sponsors un peu sombres, notamment sur des jeux comme Counter-Strike. L'e-sport illustre ainsi l'émergence d'un marché de niche devenu phénomène de masse, mais dont la viabilité économique reste à construire. Voilà. C'est vrai que souvent on entend parler des difficultés de... Oh, tu es prête? Clotilde. Clotilde est avec nous pour nous faire beau, mesdames et messieurs. Nous approchons de 10h. Clotilde, maquilleuse de son état, une des plus talentueuses que j'ai rencontrées, va nous transformer. Est-ce que j'enlève mon casque? C'est fort. Oh, t'es incroyable. Bonjour Clotilde. Bonjour Clotilde. Bonjour Clotilde. Coucou Clotilde. Comment ça va avoir du boulot? Ça va en vrai. J'ai pas beaucoup dormi, mais force à Clotilde, il y a du boulot. Vous êtes grave, hein. C'est fou ça. Voilà. Et donc Clotilde va me sublimer, va me transformer. Dans un instant, vous verrez le glow. La restauratrice en patrimoine et monuments historiques. Ils sont méchants, hein. Ils sont méchants. Arrête de bouger. Clotilde Lagotte. Vous êtes génial. Comment ça, peintre en bâtiment? Mais arrêtez, c'est fou ça. Vous êtes méchant. Voilà. Mais c'est vrai quand on entend parler de nos clubs e-sport préférés, on entend souvent parler des difficultés de financement. Hé, il y a l'ami Henri Tran. Tu vas, Henri? Arrêtez, con. Ça va Henri, t'es chaud? Je suis content de te voir. Tu vas bien? Les gens m'ont dit va sur le compte d'Insta de Henri, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps, il se passe des dingueries sur ton compte Insta. Mais c'est quoi ce genre de gros bâton? Oui quoi? Tu l'as acheté? Parce que tu l'avais. C'est ça l'histoire du bâton. Tu l'avais pas? Henri vient d'acheter le gros bâton que j'avais acheté sur Valo. Il est incroyable, Henri, il sait tout faire, il sait tout faire. Il sait tout faire. Quel artiste! À tout à l'heure, Henri. Donc, voilà. Entre héritage du sport traditionnel et logique propre au numérique, le secteur doit inventer de nouveaux modèles de revenus pour s'ancrer durablement dans le paysage du divertissement mondial. En gros, on nous dit, si vous aimez l'e-sport, attention les gars, parce que c'est un modèle économique qui est encore fragile. Ce qui a commencé dans les cybercafés des années 2000 est devenu une industrie internationale, mais son avenir dépendra de sa capacité à concilier spectacle de masse et équilibre financier. Clotilde, je peux enlever un petit peu mon casque si tu veux. T'es sûr pour accéder aux endroits les plus reculés? Ok, tu me dis. Ok. Tom Thompson, des excuses sont attendues, monsieur Étienne. Oui, Tom. Mais bon, tu sais, le mercredi, j'ai moins de temps aussi. Arrête de bouger, laisse Clotilde. Mais je bouge pas. C'est fou, ça. Ah, elle me dit, ça va là. Ça va là. Ok. Eh ben on est bien. Les amis, c'est un peu. Bon, on speedrun un peu l'actu deux fois par mois le mercredi, vous savez, parce que j'ai MVP. Donc la revue de presse, elle fait 1h, 1h15 au lieu de 3h. Vous m'en voulez pas. Mais je suis content parce qu'on aura réussi à aborder tous les sujets. On va finir avec du cinéma avec Avatar 3 aujourd'hui. Je vous rappelle ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Le défi de l'interdiction des réseaux sociaux aux ados en France. Bruxelles qui enterre l'interdiction totale des voitures thermiques neuves en 2035. Le prix des billets pour la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis, une folie. La jeunesse, seule issue à la crise française et les questions de rentabilité de l'e-sport. Et on finit avec le cinéma. Regardez, c'est carrément la une de Libé. Alors, il y a plein d'articles ce matin dans la presse. Il y a vraiment mercredi, c'est le jour de sortie cinéma dans les salles en France. Et il y a plein d'articles sur Avatar 3, hein, le dernier qui sort aujourd'hui. Et globalement, ils sont positifs, ces articles. Du coup, bon, c'est très subjectif, hein, peut-être que vous, Avatar, ça vous intéresse pas, ou vous irez voir le film, ça vous plaît pas. Mais globalement, les articles sont positifs, et surtout, il y a un journal, Libération, qui a eu un vrai coup de cœur. Pour ce film, c'est Libé qu'on a carrément fait sa une. Vous aimez Avatar, vous? Est-ce que toi t'aimais? Moi j'aime bien, ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Arrête de bouger. Mais non, ça va, je bouge pas trop là, ça va, ça va, ça va. C'est pas un partenariat? De quoi? Avatar? Non. D'ailleurs, j'ai pas vu le film. Voilà. C'est un beau film. Qui l'a déjà vu? Parce que il y a toujours des happy few qui ont vu les avant-premières, trucs comme ça. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Non, personne? Personne a eu cette chance? T'es sûr que ça va? Tu me dis, hein. Tu vas aller le voir, toi? Bah, j'ai pas trop le temps d'aller au ciné, mais j'aimerais bien. Non, non, pas de spoil. Non, j'y vais vendredi. Pas le dernier, non. Non, personne n'a eu l'occasion de le voir. Il n'y a pas eu d'avant-première un peu. Vendredi soir, Ticlem, ok. Tac. Il y a peu d'avant-première pour ce genre de film. Seulement la presse et le monde professionnel. Ok, merci, super PG, d'accord. Ok. D'accord. Alors, pourquoi Libé a un coup de cœur pour ce film? Bah, lisons peut-être l'article. Il nous reste 8 minutes. Hein? J'ai trouvé le 1 top, le 2 c'est du déjà vu. Et c'est long, je voulais dormir. J'avoue que moi aussi, j'ai plutôt préféré le 1. Ouais. Beaucoup trop guerrier à mon goût, dit l'outrangeoir. C'est vrai que le troisième, celui dont on parle là, il est plus dark. Il est plus dark. Tu me dis, hein. Hybride de mille feux. Voilà. Petit jeu de mots de Libé. Avec ce troisième opus, fascinant, que Libé a bien aimé. James Cameron prolonge les aventures des Na'vi. Ces créatures menacées par des terriens colonisateurs, un blockbuster aussi époustouflant sur la forme que sur le fond, qui fait écho à l'histoire des peuples opprimés. Voilà. Vrai coup de cœur de Libération. Qu'est-ce que disait quelqu'un qui est très actif ce matin dans le chat, qui est de tous les débats, hein. Ah oui, c'est Pop Smoking. Les modérateurs ont pu apprécier, hein. Il est de tous les débats, hein, surtout. Voilà. On sent que. Bref. Et donc, tu écrivais, pas étonnant de la part de Libé d'apprécier le message d'Avatar. Quoi? Parce que l'histoire des peuples opprimés, c'est pas trop ton truc, toi? C'est pas trop ton truc, toi, les peuples opprimés? C'était le message que tu voulais nous faire passer? Un peu trop gauchiste à ton goût, peut-être Libération? N'hésite pas, hein. Lisons l'article. Alors, on peut tout vous lire. Hein. Oh, il est long l'article. Oh là là, ça parle de peinture de la Haute Renaissance et de l'ère néoclassique. Tu veux pas me raconter le film plutôt là? Oh là là, il est long. Alors, le récit, j'y suis. Le récit prend la suite directe de la Voix de l'eau, donc c'est le 2, c'est ça, hein, avec lequel il forme un diptyque. L'essentiel des deux films a été filmé entre 2017 et 2020 avec la technologie de la performance capture, qui consiste à saisir les voix, expressions et mouvements des interprètes en situation et à en réinjecter les armatures dans les images façonnées en post-production. Voilà. Les gens qui disent ptique, parce que je dis diptyque, je vous vois. Jack Sully, l'humain dans un corps de Na'vi, et Neytiri, la Na'vi sans terre, accompagnés de leurs enfants tous hybrides, un métis, un clone né d'une immaculée conception, un humain né sur Pandora et élevé chez les Na'vi, sont en fuite et en deuil. Leur fils, Netayam, a été tué dans la guérilla contre les terriens extractivistes, qui considèrent plus que jamais Sully. T'aurais un petit peu de Carmex après, à la fin? Merci. Le dissident comme l'ennemi numéro un, et tous tentent de surmonter la tentation du talion, le ressentiment. Des partisans du nihilisme qui montent surgissent bientôt en la personne de Varang, magicienne du feu et de son clan. Je crois que c'est elle. Je crois que c'est la dame là. Qui ont muté après un cataclysme volcanique en société pirate et agressive et pactiseront comme une évidence avec les humains pour s'en prendre aux navires et à la nature. C'est les méchants. C'est les méchants. Ce troisième volet est donc le premier à creuser dans sa propre cosmogonie les racines du mal plutôt que de s'en remettre à l'envahisseur humain. Mais où le film étonne et fascine, c'est dans sa manière d'embrasser forme et fond. Cet épaississement des enjeux. Visuellement, il ne fait pas doute que le film s'affiche plus spectaculaire. Pardon, excuse-moi.
Merci. Chatouille.
Du bien. Merci Clotilde. Quand l'action se déroule dans la base des humains ou à l'heure de la confrontation, quand s'entrechoque l'acier mu par les turbines et les géants à dos de dragon. On ne doute pas de la ferveur utopiste de Cameron quand il figure le monde des bons navis, bons sauvages proverbiaux dont la sagesse nous est présentée comme un aboutissement de symbiose entre les cultures et la nature. Mais ce troisième opus nous le montre plus que jamais, rattrapé par la fascination de la tragédie, son affection des causes perdues. Varan contre Caritch, tout comme bons méchants, sont fondés dans leur hostilité, son amour des permutations, in fine son pessimisme. Bon, on sent que Libé... Je comprends pas tous les mots, hein. Mais on sent que Libé a aimé. Voilà. De fait, c'est un film de guerre du début à la fin, dont les héros sont hantés par les batailles passées et celles à venir. Un film doté d'un happy end... Ah merde, ça spoil. Merde. Je suis désolé. Mais surtout lesté d'inquiétude et de mélancolie préoccupé qu'il est pour l'avenir du cinéma et de notre monde. Ok. Bon, on sent que Libé est sous le charme, quoi. On sent que Libé est sous le charme. J'aurai du temps, j'irai le voir. Access Nagumo écrit, je crois que tu n'as pas tort. Libération juge plus le côté politique et sa portée que le film en lui-même. Oui. Après, j'ai vu d'autres articles ce matin. Je peux essayer de vous les trouver. Parisien, par exemple, a impressionné aussi pour d'autres raisons, plutôt sur le plan technique, en fait. Tu vois? Jusqu'où ira Avatar? Voilà. Ah, il s'est actualisé. C'est pas bon ça. Quand je commence à plus avoir accès à Internet alors que j'en ai besoin pour MVP là qui arrive là. Sympa la petite actualisation du Parisien là à l'instant. Ah voilà. Le débit est pas fou ici en vrai. Bon après certains me disent c'est pas vraiment du spoil. James Cameron, ça se termine toujours bien. Et toi, elle a dit sur Popcorn qu'il voulait faire les 12 coups de midi, il est coaché par Emilien. Oh, ben il l'a dit sur ses propres réseaux, ça fait des mois déjà. C'était pas vraiment une exclue. Ça fait longtemps que Étoile a dit qu'il voulait faire les 12 coups de midi. Ah, merci à toi. Merci. Oh, ben il va être 10h bientôt. Ah, quoique. C'est vrai? Je dis, c'est pas un spoil avec James Cameron, ça se termine souvent bien, me dit le chat. Et Clamaki nous dit, Titanic, ça se termine bien? Ouais, c'est pas faux. Je t'entends, Paul? Ça va? Ça va être l'heure d'aller bosser? Titanic, ça finit pas si mal en vrai. Bon, y a le monsieur qui arrive pas à monter sur la planche là parce qu'elle est trop petite. Oui, mais c'est parce que la planche elle est trop petite. Donc, la dame là, elle est vivante. Rose. Donc, hein, en vrai. Quand même. Tiens, vous voulez que je vous montre à quoi ça ressemble un conducteur? Parce que là, il y a MVP qui arrive là. On est en train de. Dans 30 secondes, on va y aller. Attendez, je vais là. Ouais. Là, ça c'est le conducteur d'MVP là. Je leur montre, hein. C'est transparent ici.
Tu leur spoil?
Ouais, ça c'est le travail de. Allez, venez, il y a Paul. Paul, qui est le rédacteur en chef de l'émission, qui a mis son magnifique pull de Noël. Paul. Et vous allez voir, d'ailleurs, moi aussi je spoil. Comme Libé. On a un petit décor de Noël dans MVP. Il y a du sapin, il y a de la boule. Je peux. Hey, il y a de la. Ouais, enfin, il y a de la boule, vous m'avez compris, il y a de la guirlande, quoi. Et là, c'est le conducteur, là. Il y a tout. Le sommaire, le petit jeu du début, la big presse. On va parler notamment des jeunes diplômés. Oh, attends, il ne faut pas que je vous montre tout parce qu'à un moment, il y a l'invité mystère. Il y a l'invité mystère. Oh, j'ai failli spoiler l'invité mystère. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Voilà. Après, on aura. l'entretien MVP, je vous montre tout avec Moziman. Voilà, avec toute la vie de Moziman là sur l'interview que j'ai qui est écrite là. Et puis après ça, c'est les Sam Informe, c'est les petites pastilles que j'enregistre pour les réseaux sociaux de MVP. Voilà. Un bon vieux Excel, exactement chez Ronex. Ouais. Voilà. Il est beau mon sommaire. Vous allez voir, il est beau mon sapin. Voilà, moi j'attends le feu vert de la régie, je suis chaud, je suis prêt. Voilà. Ouais, ok. J'ai mon café, j'ai mon téléphone. Tiens, je vais préparer ma batterie. Est-ce que j'ai besoin de batterie? Oh non, 70% en vrai, ça va. Je laisse mon sac là, ça va? Ça va aller, quelqu'un va me le récupérer. On va, ah oui, on, à un moment, il y aura un atelier gâteau. Il va y avoir un atelier gâteau, on va faire on va pâtisser. J'aime pas trop ce mot. Je trouve que la pâtisserie, c'est un univers fascinant, mais il y a des gens qui disent, je poserai la question à mon invité. Je trouve que pâtisser, le verbe pâtisser, merci à toi, je trouve pas ça joli. Ouais, il y a des gâteaux. Les boules, elles sont belles? Les boules, elles sont belles, ouais. Très belles. Je vous lis, parce que là, on est prêt d'y aller, là. Vous allez voir nous aussi, on est en mode James Cameron, c'est-à-dire que débauche d'effets spéciaux dans un instant, je vais me lever déjà, ce qui est en soi un effet spécial. Je vais me lever et je vais faire les quelques mètres qui me séparent de nos amis Tatiana, Henri Tran et Ludovic B. Le beau plateau d'MVP avec des boules, il y a une très belle boule ce matin. C'est Noël. Voilà. Et merci d'avoir été avec moi ce matin. Alors, la revue de presse, quand il y a MVP, elle est plus courte, mais on a quand même bien passé en revue l'actu. Et pour ceux qui ont raté le début, vous avez tout ça en replay sur Twitch si vous êtes abonné, sur YouTube sinon, et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast à partir de 15-16 h. C'est l'ami Vincent qui s'en occupe. Voilà. Apple Podcast, Deezer, Spotify, tout ça. Si, c'est joli, pâtisser, tu trouves le mot pâtisser? Ouais, je suis pas fou, moi. Voilà. Et on se retrouve ce soir parce que ce soir je fais du valo aussi. On fait du valo avec des pompiers, voilà, pour mettre en lumière parce que les pompiers ils ont une chaîne Twitch. Il y a des pompiers en France qui ont une chaîne Twitch et ils m'ont proposé un co-stream ce soir pour mettre en lumière leur travail quoi. Donc ce soir c'est du valo avec les pompiers. T'as récupéré ton compte? Pas trop non. On va voir si c'est pas sûr que ça marche en fait. Et puis demain il y aura du Fortnite et vendredi je sais pas encore. Faut peut-être faire du LOL quand même. Hein. Ouais, ce serait sympa. Bon, j'espère, hein, sinon je me barre. Hein. Salut Captain, oui. Je suis pas venu ici pour souffrir moi. Tu me dis Paul, hein? Ah, d'accord, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Trop content que tu reçoives des pompiers vu les péripéties que j'ai eues avec eux récemment. C'est-à-dire les péripéties des pompiers, c'est-à-dire Sugar. Raconte-nous. Vendredi, petit lol, peut-être on fera un petit lol. Hein. De toute façon, en ce moment, on est sur un triple arc. Hein. Si ça joue pas à LOL, ça joue à Valo. Si ça joue pas à Valo, ça joue à Skyrim, quoi, en gros. C'est pas mal comme arc. C'est un triple arc. Les agriculteurs, on en a parlé, ouais, on en a parlé hier, on en a parlé la semaine dernière déjà. Bon, on en reparlera bien sûr. Raconte-nous tes aventures avec les pompiers, Sugar. J'espère qu'ils sont pas trop forts d'ailleurs. À Valo, je veux dire les pompiers. Je connais pas du tout leur niveau. Un petit feu qui s'est déclaré dans mon bâtiment la nuit de vendredi. Mais entre les cambriolages et les incendies, mais c'est un peu Pierre Richard, non? Et les pompiers ont géré de fou? Incroyable. Ben on pourra les remercier ce soir. Vrai problème de trouver des volontaires chez les pompiers, me dit Simsan 25, et peut-être pas assez de recrutement dans les collègues pour participer au JSP. C'est les jeunes pompiers, ça, hein? Ça va? C'est super, merci à toi. Ok. Mon pauvre Sugar. Un peu chat noir, ouais. Tiens, puisqu'on a quelques minutes avant que la régie me donne le feu vert, là, je vous le disais, on est un peu sur un triple arc LOL Skyrim Valo. Il y a un autre jeu auquel vous aimeriez que je joue régulièrement ou pas? Les beaux gosses. Call of? Ah, Call of, ça me gratte. J'avoue que le Call of avec Zach m'a donné envie de rejouer à Call of. Peut-être déjà de faire le mode histoire du dernier Call of, le Black Ops 7, là. Et de jouer un petit peu aussi en multi, ouais. Ark Raider, c'est marrant, j'arrive pas à être hypé par Ark Raider, je sais pas pourquoi. GTA RP, ok. CS2, Elden Ring, Helldivers. Ah, vous êtes très nombreux à me demander Ark Raiders. Je sais pas. Peut-être que je passe à côté du jeu, je sais pas. Hades 2, Overwatch, Clair Obscur, mais je sais que t'aimes pas. Si, j'aime Clair Obscur. Mais j'ai fait 3-4 streams dessus, quoi. Franchement, tu te débrouilles comme un chef sur Call of, c'est faux, mais c'est gentil par contre. Ok, on m'indique qu'il y a un tout petit problème de colorimétrie sur le plateau. On est en train de rajouter les couleurs de Noël, parce qu'on est en train de vous préparer un plateau MVP aux couleurs de Noël. Voilà. Hein, ça va manger de la bûche et tout. Dispatch, je l'ai fait! Bono, je l'ai fini, Dispatch. Excellent. Baldur's Gate. CS, ce serait magique. J'y ai joué vite fait à CS. Hein. Zelda. Ah, c'est mes enfants qui jouent à Zelda Breath of the Wild. Oui, t'as la tête un peu verte. Ah non, ça, c'est pas la lumière, c'est vraiment ma tête par contre. Mario Kart avec la commu? Oh, je suis pas fort à Mario Kart. Arc, Poké Rayou sous le serveur d'étoiles. Hollow Knight. Le jeu de loi bizarre que tous les streamers font en ce moment. Quel est ce jeu de loi bizarre que tous les streamers font en ce moment? Dont me parle Yoni Gros. Ah, c'est bon, je peux y aller? Ok, bon, j'ai envie de faire pipi, mais c'est pas grave, j'irai dans 3 heures. Non, c'est trop tard là. Pff, tant pis. Bon, ah bah attends, bah. Bon, non, non, pff, tant pis. Non, j'ai mis une poche, on va y aller. Allez, let's go, c'est parti.